Une émission soutenue financièrement par Jean-Noël, Fabien Aubart, Christine Minetto, Régis Forgione, Hugo et Johan Panier. Si vous voulez nous soutenir comme eux, n'hésitez pas à aller sur tipeee.com/eTeachers. Allez, bonne émission. eTeachers,
le podcast des profs numériques. Éducation
numérique.
Actu.
Outils. Expérimentation.
Productivité.
Interaction. Innovation.
Jeff.
Guillaume.
Seb.
Et Seb.
Donc nous sommes partis. Bonsoir mesdames et messieurs. Très bonne année 2020. Je vais essayer de ne pas parler plus fort que ça, puisque, a priori, j'explose les oreilles de Jeff.
Non, là, tu peux y aller, franchement, ça va.
Je peux y aller. Bonsoir, messieurs, dames. Bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses. Salut, Jeff, salut, Seb.
Salut, bonne année à vous, bonne année à ceux qui nous écoutent. Voilà, cette année, on souhaite ça. On peut encore la souhaiter, hein, 21 janvier, hein, je crois. Hein.
Donc, ouais. Il nous reste 10 jours encore.
Voilà. On a eu du mal à ce début de janvier hein, de se retrouver. Mais c'est fait. On va passer une émission, une petite heure sympathique.
Surtout que c'est le numéro 99. Et oui, messieurs, dames, dans une émission, nous allons passer la barre des 100. Et c'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Même
tout
si
à fait,
nous
tout à fait.
Pas de piano debout.
Et ouais, c'est pour ça qu'on avait peur de faire le 99 aussi. Hein.
Ouais, c'est l'émission de la maturité, c'est, tu vois, c'est tout ça.
Ouais, t'as joué,
compliqué.
Ouais.
Bon, en tout cas, on espère que vous allez tous bien, que ce début de janvier n'est pas trop bousculé par les diverses annonces de notre cher ministre, par la morosité ambiante, entre les retraites, les épreuves du bac, etc., etc. Et que vous avez encore un peu d'énergie pour attaquer une nouvelle année qui, nous l'espérons, sera pleine riche, bien riche de découvertes diverses et variées. Voilà.
Très bien. Et bon, on attaque. Hein ? Qu'est-ce que vous pensez ?
Parti.
Allez, un petit sommaire, une émission quand même riche hein, pour cette 99. On va parler un petit peu classe inversée, on va parler un petit peu de lecture, de collaboration, de mots de passe, de blog, de vidéos, de plein de choses sur l'autonomie, etc., etc. Et on parlera un petit peu du 100 aussi, bien sûr, du numéro 100 qui vient de parler Guillaume.
Très bien.
On est parti les gars. C'est moi qui ai mis, suis tout seul à avoir mis des actus, c'est ça
Moi j'ai rien mis parce que je suis toujours bien organisé, mais non, vas-y, j'en aurai pas. De toute façon,
allez,
je vais les mettre à jour.
Je vais parler de la CLIS. J'en avais parlé de la CLIS, tout ce qui est la semaine des classes inversées et des pédagogies actives, puisqu'on est partenaire. Si vous allez sur le site de la CLIS, d'inversion de la classe, vous aurez le petit logo et teacher. Donc voilà, ça se déroule du 27 janvier au 2 février 2020. Alors, qu'est-ce que c'est cette semaine des classes inversées donc, c'est un événement, en tout cas, qui est ouvert à tous, toutes et à tous. C'est l'occasion, en tout cas, pour ce qu'ils appellent ça, les inverseurs, d'inviter, en tout cas, leurs pairs, praticiens ou curieux, expérimentés ou débutants, à visiter leur classe et s'informer hors des cadres théoriques sur tout ce qui est classe inversée et pédagogie active. Donc, c'est les classes ouvertes, c'est le principe de la classe ouverte. Vous allez en fait sur le site de CLIS 2020 et vous allez pouvoir aller sur une carte qui est interactive de la France et vous avez en tout cas tous les praticiens qui ont proposé d'ouvrir leur classe pour que vous puissiez un petit peu observer un petit peu leur pédagogie active. C'est très bien, mais vous pouvez aussi participer, c'est-à-dire mettre un événement si vous voulez ouvrir en tout cas votre classe pour qu'on puisse en tout cas observer un petit peu toutes ces pédagogies actives, comment vous mettez ça en place dans vos classes. Donc n'hésitez pas, CLIS 2020, cliquez dessus, vous pouvez en tout cas vous proposer vos dans une ouverture de classe, ou aller ou voir un petit peu si près de chez vous, vous n'avez pas quelqu'un qui ouvre sa classe. Je ne sais pas si vous avez regardé, en tout cas près de chez vous, les gars, s'il y a des choses intéressantes. Mais donc voilà, on est encore partenaire pour la, je crois, la troisième édition, en tout cas, de cette CLIS 2020. Et le site, c'est clise.org, CLIS, C-L-I-S-E. Voilà.
Est-ce que dans l'actualité, on parle un peu des polémiques ou on attend plus tard?
Vas-y, hein, je sais qu'on peut lancer, on peut lancer des polémiques, hein, vas-y, moi je n'ai pas de souci.
Bien, bah écoutez, puisque c'est vrai que ça tombe particulièrement aujourd'hui, ces jours-ci, hein, j'en ai un peu parlé en introduction, alors c'est pas une polémique, mais je voulais quand même parler un peu de ces fameuses épreuves du bac, puisque E-Teacher est une émission qui n'engage que nos propos personnels, nous parlons et non pas nos fonctions, nous sommes d'accord. Voilà, vous n'êtes pas censé savoir que cette semaine se déroulent les premières épreuves communes de bac, hein, les fameux E3C, épreuves, bah, je ne sais plus d'ailleurs ce que c'est les 3C, communes de, je ne sais plus,
oui,
c'est
je pas sais jamais, ouais,
les épreuves de contrôle continu commun, certainement quelque chose comme ça, hein, voilà, qui ont lieu donc en langue vivante, mais ça on avait déjà l'habitude en langue vivante depuis la précédente réforme, puisque c'était déjà un peu le cas pour nous, mais cette année ça concerne aussi d'autres matières, suivant les filières. Bon, voilà, bah écoutez, juste vous dire que nous sommes la première semaine du deuxième trimestre de l'année, enfin deuxième, hein, et qu'on demande déjà à des élèves de première de passer des épreuves de bac avec une réforme un peu faite au forceps, des programmes plus ou moins travaillés. On a un ministre qui nous dit que tout va bien. Voilà, que ça ne concerne, la grogne ne concerne que 0,1% et que seulement 6 établissements, soi-disant, aujourd'hui étaient bloqués dans toute la France. Rien que dans la Loire, il y en a plus, dans mon département, qui ont soit boycotté les épreuves, soit refusé de faire monter les sujets, etc., etc. Voilà, je trouve que la communication s'est un petit peu rompue avec ce ministre. Je ne dis même plus nôtre, vous voyez. Et bah voilà, c'était plus un certain coup de gueule et une tristesse, puisque les nouvelles grilles de ces épreuves en ce qui concerne ma matière sont juste affligeantes, hein. Mon collègue monsieur le prof, qui j'espère pourra peut-être venir un jour parler ici, a été invité cette semaine sur beaucoup de plateaux de télé, d'émissions de radio, comme il est plutôt médiatisé de par ses écrits, de par ses émissions. Il l'a dit très bien les choses, hein. On évalue des élèves sur des grilles qui sont absolument scandaleuses, où on leur demande d'un niveau qui est l'équivalent d'un niveau de 5e pour les langues vivantes, ou d'ailleurs on va exagérer un peu plus de 3e en lycée. Tout ça dans l'optique de faire passer tout ce petit monde, eh ben, le bac n'a plus beaucoup de valeur, je trouve, et j'en suis fort déçu. Et voilà un petit peu ce que j'avais envie de dire. Je ne sais pas si vous avez, les gars, un peu eu des retours dans vos différentes, mais c'est quand même un peu, je trouve, un petit peu tendu. Hein. Voilà.
Oui, enfin, moi, j'ai un peu, si je parle de cas particulier, j'ai mon fils qui est en plein dedans. Là, donc si je parle, lui, là, il a passé les épreuves de LV1, LV2. Hein, ouais, ça a été tenu, en tout cas, les épreuves de LV1, LV2. Après, j'ai très peu d'infos sur l'autre côté, hein, sur les histoires de grilles. Je pourrais pas trop parler dedans, mais c'est vrai que c'est très tôt. Tu as raison. Ça a mis vite, en tout cas, mon fiston dans ce bac, très rapidement ou trop rapidement, je sais pas. Je t'avoue que j'ai pas trop de recul comme toi, où tu vois vraiment l'autre côté. Mais de son côté, c'est vrai que ça stresse énormément les élèves très très tôt.
Je trouve que c'est.
Mais j'ai du mal à voir
ce qui était quand même censé être considéré comme une épreuve importante dans une vie, dans le premier examen. Parce que bon, le brevet, c'est le premier examen, d'accord, mais bon, voilà. Hein, et on leur demande de faire des choses au mois de janvier, donc avec une réforme, surtout cette année, qui est arrivée très tôt. Je veux dire, dans les fameuses thématiques que les collègues doivent enseigner, notamment langue vivante, ils ont eu un trimestre à raison de 2 heures par semaine pour les travailler. Alors, on leur dit, mais rassurez-vous, de toute façon, vous pouvez pas tomber sur des sujets autres que ce que vous avez travaillé avec les collègues. Les trucs ont fuité sur Twitter en moins de 2, forcément, comme c'est du contrôle continu. Alors, vous allez me dire, c'est du contrôle continu, mais clairement, là, d'une académie à l'autre, on s'aperçoit que la difficulté n'est pas la même. Enfin, ça pose quand même un certain nombre, je trouve, de problématiques qui se posent, en tout cas, maintenant, qu'il était peut-être déjà avant sur le contrôle continu, cela dit, hein, ça, c'est pas nouveau, hein, sur les examens. Mais moi, je trouve que c'est un peu cavalier et je trouve que la réponse du gouvernement est pas très bonne. Et pour vous dire à quel point on en est de la rupture de communication, ce matin dans un lycée du nord de notre département, les collègues n'ont pas voulu boycotter les épreuves pour les élèves, ils ont juste voulu marquer le coup en faisant de la rétention de copies. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu de rendre les copies pour correction et dispatch, les différentes corrections à l'heure donnée, ils ont décalé ce rendu de copie de 2 heures. Purement symbolique, la direction était au courant, en prévenant les journalistes pour qu'ils viennent, pour essayer de faire un peu de buzz, on va dire, hein, mais vraiment avec la meilleure des intentions, c'est-à-dire pas pénaliser, eh bien, le rectorat, notre rectorat de l'Académie de Lyon, n'a rien trouvé de mieux que de porter plainte contre ces enseignements pour rétention de copies, puisque a priori c'est prévu comme tel, hein, ça existe, ils n'ont pas inventé ça, hein, on n'a pas le droit. Les syndicats ont été alertés, et les syndicats, la seule chose qu'ils ont trouvé à répondre dans un premier temps, c'était « vous auriez dû en fait vous mettre en grève, puisque ça c'est légal, hein, avec un préavis, alors que là, clairement, vous êtes dans l'illégalité. » Voilà. Alors que les collègues pensaient juste faire une rétention de 2 heures, ils ont rendu les copies après, hein, c'était prévu, bien évidemment, eh bien, il y a eu une plainte de déposer. Donc, il y a les noms des collègues qui ont leur nom affiché dans un commissariat de police. Alors, on sait bien que ça ne va pas aller très loin. On se doute bien que là aussi, c'est plus symbolique qu'autre chose. Mais puisqu'on est dans le symbole, eh bien, voilà, on a un rectorat qui porte plainte contre ses agents. Ma foi, voilà. Bienvenue en 2020.
Ouais, j'ai du mal à avoir un avis tranché sur ce bac, sur ce... Voilà, je t'avoue.
Oui, non, mais je suis pas en train de dire que tout est mauvais dans la réforme. Hein. Je dis juste que je trouve que la communication est pas très bonne et que voilà, c'est quand même allé assez loin dans les pratiques. Les collègues qui ont refusé de faire remonter les sujets sont les chefs d'établissement qui sont allés, qui ont indiqué aux inspecteurs, au corps d'inspection, les sujets qui avaient été travaillés grâce au cahier de texte pour voir les thématiques, hein, en langue vivante, par exemple, dont on a des axes à travailler au lycée, qui sont allés voir quels axes avaient été travaillés pour que les inspecteurs puissent proposer des sujets en conformité aux axes. Donc, c'est vraiment clairement, on va court-circuiter, en fait, les profs pour quand même que tout ait lieu. Alors, j'imagine bien que c'est ce qu'on demande aussi en haut lieu, hein, pour le coup, qu'il faut qu'il n'y ait pas de vagues, comme d'habitude avec Blanquer depuis le début. Voilà, je suis quand même un peu sceptique de la manière dont on travaille par rapport à ça. Voilà, en cette semaine de début d'épreuve de 3C, quoi. Hein.
Est-ce que je vais rentrer, je vais me faire l'avocat du diable, hein, j'aime bien.
Vas-y.
est-ce que toute réforme n'a pas été de cette manière-là, c'est-à-dire que très difficile à mettre en place au début, de nouvelles choses, nouvelle façon de faire,
je sais pas exactement. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est que je trouve que toutes les dernières réformes ne vont pas tout le temps, euphémisme, dans le sens de la pédagogie. On a beau me dire ce qu'on veut sur les épreuves de bac communes, ce que je trouve être plutôt une bonne chose en plus. Et encore une fois, c'est surtout les collègues d'histoire-géo qui sont un peu tombés, je crois, de maths aussi, hein, dans les épreuves non spécialistes. Hein, il y en a eu aussi, hein, mais je dis peut-être...
En techno, je crois.
Voilà, bac techno. Nous, depuis la réforme du bac en 2014, la précédente, en langue vivante, au lycée, on est habitué à évaluer les élèves en contrôle continu, hein, notamment ce qu'on appelle l'épreuve de compréhension orale, ils doivent écouter des documents, faire une restitution. Pour nous, c'est pas tellement la forme qui a changé, puisqu'on était déjà... voilà. Et même des collègues qui hurlaient en disant « Mais nous, coucou, en fait, ça fait déjà depuis 2014 qu'on fait ça, hein, pour les langues. » Sauf que ces épreuves de 2014, depuis 2014, elles avaient quand même lieu, on va dire, allez, au mois de mars pour les premières, quoi. Ils étaient vraiment... Là, on est en fait en janvier. C'est-à-dire que les élèves, ils ont un trimestre de notions dans les pattes, avec très peu d'entraînement parce que très peu d'heures. C'est plutôt ça, en fait. C'est pas tellement ça. On nous aurait dit « Ben voilà, c'est un peu plus tard dans l'année, j'aurais compris. » Mais là, je trouve que c'est juste très tôt, en fait. Moi, en tant qu'enseignant, je me dis que c'est compliqué de travailler des axes que depuis le mois de septembre, parce que c'est pas sur un programme qui porte depuis la seconde, on est bien d'accord.
Hein. Oui, tout à fait. Voilà.
Donc, je comprends pas, en fait. C'est plus ça, c'est pas tellement... Oui, la réforme, elle doit exister peut-être. Il est trop tôt, je pense, pour l'évaluer. Enfin, les retours qu'on a pour l'instant du lycée, hein, les conseils de classe à 40 professeurs, les impossibilités, tout ça, c'est... Voilà, en tout cas, ça peut être intéressant, collègues de lycée, si vous voulez témoigner, pourquoi pas, hein, on pourra en parler. Hein,
oui, c'est vrai, oui.
Entrer là-dedans, hein, avoir vos versions. Pour l'instant, je suis quand même un peu dubitatif. Voilà, désolé pour avoir plombé l'émission d'entrée de jeu avec ceci.
Non.
C'est quand même l'actualité brûlante.
Et puis, j'étais un peu titillé aussi. Donc. Voilà. Allez, on enchaîne.
Très bien.
On va parler un peu de polémique, c'est bien de parler un peu, faire un peu de polémique. Les gars, on est sur outils, c'est ça?
On est sur outils, en effet.
Allez, Seb, on t'a pas entendu sur cette polémique en plus. Vas-y, allez, à toi de parler. Ah,
tu veux mon avis sur la polémique? Non, alors, juste un mot.
Non, tu n'es pas obligé. Hein,
tu
peux rester complètement neutre. Hein.
Je ne vais pas rester neutre, je vais m'écarter un peu parce que vous doutez bien que sur les réformes du lycée, je ne vais pas commencer à parler, c'est pas mon domaine de... C'est pas mon domaine, donc je vais éviter de faire mon mec du bar qui a un avis sur tout. Moi, ce que je trouve dommage dans toutes les réformes qui ont eu lieu ces dernières années, c'est que moi, je me rappelle, 1995, moi, j'ai passé mon bac et je savais pas super, super bien ce que j'allais faire de ma vie. En 2020, si tu sais pas ce que tu vas faire de ta vie arrivé en terminale, mon coco... Ben bon courage, parce qu'il va falloir que tu passes tout ton été à surveiller ton téléphone pour savoir ce qui va se passer. Il va falloir que tu passes tes épreuves dès janvier. Donc, je trouve que ce que je regrette, moi, c'est... Voilà, désolé pour le bruit.
Ouais, coupe ton micro, Guillaume.
Guillaume. Ouais. Ce que je trouve juste dommage là-dessus, c'est qu'on stresse les mômes. Voilà. C'est qu'on les... Au lieu que c'est une année importante, on l'a dit, et au lieu d'être une année sereine, qui serait déjà stressante par l'épreuve elle-même, on est en train de les restresser derrière avec d'autres impératifs à avoir en tête. Donc voilà, c'est ça que je regrette. Après, je suis pas assez au clair pour
on pourrait en discuter longtemps hein, parce que j'ai plein d'arguments pour vous embêter. Mais
moi, je peux te désarmer. Notre ministre était arrivé en disant qu'il ne ferait pas une réforme qui porterait son nom. J'ai l'impression qu'il est en train de se multiplier là. Mais à part ça, tout va bien.
Ok. Allez, vas-y, enchaîne sur les outils.
Outils. Une mise à jour entre guillemets avec l'arrivée de Lumni. Lumni, on le connaissait sous le nom de France TV Éducation. Nouveau service de vidéo et un peu plus. Dans les promesses, c'est un accès à la culture, au savoir et à la connaissance. Vaste programme, comme dirait l'autre. En gros, on va y retrouver les vidéos des fondamentaux. Pour les profs du primaire, ça, c'est grand classique maintenant. Vous avez aussi des jeux. Vous avez les vidéos d'un jour, une actu. Bon, en gros, ça fait une plateforme assez sympa qui est assez tournée vers les normalement. Tourner vers tout, pour tout le monde, mais quand même, il y a de bons repères pour les enseignants. Vous avez une classification par niveau. Vous avez tous les contenus que j'ai dit. Vous avez des dossiers de faits, depuis des révisions pour le bac, des trucs assez qui essaient de faire jeune. Donc, voilà, vous avez des trucs, par exemple, data science versus fake. Donc, c'est un dossier de 30 vidéos où vous allez pouvoir avoir du débunkage, en gros. Hein, les requins sont les animaux les plus dangereux du monde, côtoie, le réchauffement climatique n'existe pas. Voilà. Après, je ne me prononce pas sur la qualité des vidéos. Normalement, elles sont bonnes parce que je connais plutôt celles des fondamentaux qui sont assez sympas, bien fichues. Donc, une mise à jour plus qu'une grande nouveauté avec, je n'ai pas encore essayé, mais il y a des petits jeux. Notamment, j'ai vu des jeux plutôt pour le primaire, pour les premiers niveaux, du style en lecture, avec des jeux sur les lettres, des jeux sur les sons, pas mal pour les CP, etc. Donc, voilà, une petite mise à jour de service.
Je confirme, très très bien, très très bon service.
Écoute, alors, tout va bien. Est-ce que quelqu'un... je ne suis pas le seul à avoir mis des trucs dans outils.
Ouais, Guillaume, vas-y, tu peux aller.
Tout à fait. Alors moi, je vais vous parler rapidement, en fait, dans ma veille, dans quelque chose que je n'ai pas vraiment eu le temps d'utiliser, personnellement, que j'utiliserai peu dans mon métier de prof de langue, mais peut-être avec mes enfants en complément, à les savoir. Donc ça s'appelle mon appli.net. Et ce sont des mises à jour d'applications pédagogiques pour l'enseignement du premier degré sur des thématiques assez simples, donc assez simples, n'importe quoi, pardon, je suis en train de faire deux choses en même temps, des thématiques du premier degré, mais tournées autour uniquement des mathématiques, du français en priorité. Alors, en fait, la grosse force de cet outil, du peu que j'ai pu regarder, c'est que c'est très léger. Et ça, c'est donc absolument approprié à un travail sur tablette ou sur téléphone. bien sûr, c'est multimodalité hein, sur les écrans d'ordinateur également. Et j'ai trouvé ça que c'était très joli, très bien fait, très facile pour des petits. Donc, on retrouve l'horloge, le thermomètre, la balance, vraiment, voilà. Ça rappelle un peu des activités flash d'une autre période, sauf que ça doit être du HTML5, j'imagine.
Ouais, c'est du HTML5. Hein.
Et en tout cas, super joli, super fluide. Voilà, mathématiques, vous rentrez par grandeur, nombre, calcul mental, français, lettres, mots, phrases. C'est assez simple. Et ensuite, vous avez donc des petites activités très claires. Donc, il ne s'agit pas à travers ce site d'avoir un gros LMS avec une base de données d'élèves dont on pourra suivre les progrès, etc., etc. Non, pas du tout. Hein. C'est bien sûr d'aller assez facilement vers des activités et c'est ce que je trouve le plus important parce que on n'a souvent pas besoin de la grosse Bertha juste pour travailler avec les élèves. Donc là, je suis sur l'activité sur la monnaie, par exemple. Vous glissez, déposez les pièces, les billets. Vous avez un total qui apparaît avant, à côté. Donc, on peut tout à fait leur demander avec un professeur, hein, de faire en sorte de payer 15 euros. Quelles sont les différentes possibilités, hein. J'imagine que c'est plutôt dans ce style qu'on va utiliser. Donc, vraiment très simple et puis assez joli, j'ai trouvé, reconstituer un mot. Alors, il n'y a rien de très original, si vous voulez, dans ce qui est proposé. Mais je trouve que pour un public de premier degré, c'est vraiment graphiquement, j'ai trouvé que c'était épuré, soft et absolument suffisant. Voilà ce que je voulais dire.
Tu sais quoi, ça me dirait bien en vidéoprojection, ça.
Au TBI, ouais. Ouais. Tout à fait. Sur un TBI, je pense que ça s'y prêterait très bien. Alors, on peut se connecter hein, quand même, hein, mais. Ça reste voilà. Alors quand vous lisez les conditions, on vous dit que c'est le petit frère de quelque chose qui s'appelait AppliPla.
Oui, c'est ça. C'est une mise à jour en fait. Ouais.
Voilà.
Qui était complètement en flash. Et en fait, c'est la grosse nouveauté, c'est qu'ils ont repassé en HTML5 sur tablette et compagnie. Donc c'est cool quoi.
Et franchement c'est chouette. Voilà, donc j'aurai peu d'occasion de l'utiliser, peut-être Marc dans le cadre d'aide personnalisée avec des élèves de cycle 3, primo arrivant, des choses comme ça. Mais c'est pas mal. Voilà, tout simplement.
Ok, très bien. Allez, moi j'avais une petite chose assez rapide comme outil. C'est plutôt un site, on va dire. Hein. C'est un site qui s'appelle jeunesse-short-edition.com. Donc Short Edition Jeunesse. En fait, Short Edition Jeunesse, c'est une ressource de lecture très courte. C'est-à-dire qu'on rentre en fait justement par la durée de lecture. Si on a par exemple, on veut lire que 5 minutes de lecture, si on veut lire plutôt 10 minutes, plutôt 20 minutes, eh bien, il va nous proposer des histoires. Il y en a un peu pour tous les goûts, hein, puisque c'est classé aussi par âge, par type de lecture. Derrière ce site-là, ben, on a toute une équipe qui modère un petit peu on leur envoie en fait les productions hein. Si vous avez un petit peu d'écrivain et ben vous pouvez proposer vos histoires, ils les lisent et ils les publient ou non hein, en fonction de ce que c'est. Voilà, c'est ouvert en tout cas à tout le monde, il n'y a pas besoin d'inscription, rien du tout pour lire ces histoires là on va pouvoir choisir, c'est illustré en tout cas quelques histoires sont illustrées, vous allez dessus, en fait, voilà, en fonction du temps que vous avez, vous allez pouvoir faire la lecture, il y a un peu de tout, des petites nouvelles, en tout cas sympathiques, vous avez l'âge, vous avez le type, qu'est-ce que j'ai oublié, voilà, le thème, etc. Donc, c'est, voilà, rien de plus à raconter dessus, je trouve que c'est plutôt une très très bonne chose. Alors, j'avais lu combien il y avait d'histoires, il y avait plus de 4000 auteurs, je crois, sur ce site. Voilà, rien de plus à dire. Allez jeter un petit coup d'œil à ce Short Edition Jeunesse, parce que je crois qu'il existe un Short Edition, en tout cas au départ adulte, et ils ont développé cette partie jeunesse. En tout cas, moi j'aime bien de rentrer par cette petite question de temps. Hein. On est dans les transports en commun. Dans les transports en commun, on a 10 minutes. Allez hop, on va chercher une petite lecture de 10 minutes. Pourquoi pas. Voilà, je trouve le concept plutôt amusant et plutôt sympathique.
Moi, j'aime bien le concept des transports en copains. J'ai trouvé que c'était joli.
Ouais, bon, ça va.
Non, mais si, justement, je trouve que c'est très, très joli. C'est très
j'ai fourché.
Bah ouais, ça me plaît.
Non, mais c'est très sympa quand... je ne sais pas si tu l'as dit, mais les illustrations sont très, très sympas.
Oui, très sympa, ouais, tout à fait.
C'est très agréable. Et franchement, ça répond à un de mes besoins qui est en train d'arriver. Donc, c'est très, très bien aussi.
Eh ben, super, je suis content. Voilà. On enchaîne, les gars ?
Bah écoute,
ah non, t'as encore un petit outil, toi, non ?
Oui, alors moi, c'est pas vraiment un outil. Hein. C'est quelques petites nouveautés sur Padlet.
Vas-y. Padlet, alors, qui était devenu payant, justement, que les profs l'avaient un petit peu lâché.
Voilà,
lâché.
Donc, oui. Alors, c'est pas complètement payant, mais on va dire que c'est...
qui est limité.
Comme tous ces services qu'on a connus, histoire d'attirer le chaland vers les formules premium et abonnement et consorts, ils ont limité sérieusement leurs outils. Mais si d'aventure, vous aviez l'envie d'y retourner, rappelez-vous, Padlet, c'était ces pages où on pouvait coller de l'image, du texte, de l'audio, des vidéos. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans un petit article que j'ai eu ? Donc, maintenant, on peut enregistrer une vidéo ou un enregistrement audio directement dans l'application. Ça peut être, ma foi, assez sympathique.
Bon, c'est ça fait un moment, ça, déjà.
Ah, oui, ça, vous pouvez le faire déjà. Ouais. Ouais.
Bon, d'accord.
Je suis désolé.
voilà, ma news est pourrie. Alors, bienvenue en 2007. Donc, maintenant, sur Padlet, vous pouvez enregistrer une vidéo.
Non, mais en plus, t'es mal tombé parce qu'on avait fait une formation avec Guillaume et on avait proposé cette solution. Hein, tu te rappelles ?
Ah, ben bravo. Oui. Alors, vous allez me dire, alors, est-ce qu'on pouvait mettre des likes, mettre une réponse un peu plus
non,
complète sur les
ça
commentaires
fait des, ça fait partie de commentaires. Des nouveautés, tout à fait.
Ah, bon, voilà. Alors, là, ça va changer votre vie, quand même. Vous pouvez mettre des pouces bleus, là, en termes
pourquoi
de commentaires.
Pourquoi il est mort de rire, Jeff ? Qu'est-ce que tu nous dis ?
Parce que les likes, ça existe depuis un moment aussi.
Non, putain, c'est pas vrai. Il
date depuis un moment, depuis quand ? Parce que
ça fait 2-3 ans que j'utilise ça avec mes élèves et les élèves l'utilisent et les commentaires aussi.
Ah, les likes, parce que tu vois, moi j'utilise beaucoup Padlet et là je l'ai réutilisé en voyage scolaire avant Noël et j'avais pas vu ça. Alors peut-être que c'était, mais je l'avais pas vu. Je reconnais que ça.
Bon, sinon.
Désolé. Je vais essayer de
t'aider. Mais c'est bien, Seb, t'as bien bossé.
Ouais, c'est top. Vous pouvez mettre des dessins, une carte ou un lien d'un Google Doc, mais
Alors, la carte, ça, c'est sûr que c'est nouveau. Parce que, pareil, moi, je l'utilise beaucoup en voyage scolaire. C'est absolument génial. Voilà, on est parti en voyage scolaire. Voilà, je fais tous mes blogs de Padlet avec de voyage scolaire avec Padlet. Donc là, j'avais créé un sous-blog où les élèves, en fonction des arrêts où on était, pouvaient se géolocaliser, mettre une photo. Et bien sûr, vous voyez tout à fait le truc. Et c'est super bien, quoi. C'était trop bien. Vraiment super bien.
Ouais, ça reste un super outil, Padlet, quoi qu'il arrive.
Moi, j'ai pris la version premium. Hein. Je l'ai fait acheter au collège.
Pareil, mais parce que j'ai du mal à proposer autre chose aux collègues, hein, souvent. Hein.
Il n'y a rien d'autre, en fait.
J'arrive pas. Ils sont complets. Voilà, on arrive à trouver des petits outils qui font la moitié de Padlet ou le quart de Padlet, mais pas tout complet. Voilà. Mais je sais, mais bon. C'est comme ça. Voilà. Truc super. Non, c'est bien, c'est bien d'avoir trouvé
non, mais
un article
ensuite,
de 2007, c'est bien.
Ouais, non, mais c'est, attends, 2007, grande année, hein, pouf.
Non, mais je rigole, hein, c'est peut-être un article.
Oui, mais ça va, il n'y a pas de...
Allez, truc et astuce. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment un truc et astuce, mais j'ai vu que tu avais rebondi ça dessus. C'est pas plus tard qu'aujourd'hui, j'avais une formation. Et les gens se plaignaient des mots de passe. Voilà, des mots de passe, ils en avaient partout. C'est une formation sur la création de blog, tu vois, sur WordPress. Ils n'en pouvaient plus des mots de passe. Il y avait 36 mots de passe, etc. Et moi, je leur ai dit, mais gestionnaire mot de passe, mais qu'est-ce que c'est ? Ils m'ont tous regardé avec des yeux.
Alors,
voilà, là, et puis c'est des gens. Enfin, je n'avais pas spécialement des débutants, tu vois, en numérique. Hein. C'est des gens qui étaient plutôt aguerris, qui géraient des sites internet. Voilà, donc je leur ai parlé de gestionnaire de mot de passe. Alors, si on résume un petit peu gestionnaire de mot de passe avant que tu enchaînes, Seb, qu'est-ce que c'est ? En fait, il faut retenir un mot de passe, un seul, et tous les services que vous utilisez avec des mots de passe, hein, c'est tout et n'importe quoi, vous les intégrez dans cette application et vous retenez un seul mot de passe. Par contre, ce seul mot de passe, il ne faut pas le perdre. Parce que la société qui a ce... oui, mais ça arrive. Hein, ça arrive à quelqu'un, c'est du vécu.
Oui, mais... Ah, d'accord.
Voilà, ouais, c'est du vécu.
D'accord. Mais bon.
C'est du vécu, c'est après, du vécu. Voilà, ouais. En fait, parce que justement, là, il y a eu des X plein, on va en proposer plusieurs après des gestionnaires mot de passe. Mais ceux qui ont le là où vous stockez le gestionnaire mot de passe, enfin la société, n'a pas le mot de passe principal. Voilà, elle est cryptée, ils ne peuvent pas vous le redonner, il n'y a pas de mot de passe perdu comme dans tous les autres sites, ça n'existe pas.
Non, parce que sinon, ça serait couillon.
Voilà. Donc, c'est du vécu parce que quelqu'un que je connais a eu. Il a un trou de mémoire, il a perdu son mot de passe principal, et ben il a été, voilà, on va rester poli, mais il a eu vraiment dans les fesses, voilà. Donc on peut rien faire. Mais par contre, ça rend des services. Moi, ça fait 2 ans que j'ai un mot de passe payant. Pourquoi payant? Parce que j'ai plusieurs machines, j'utilise plusieurs machines, smartphone, tablette, ordi. Et ben pour que ça synchronise avec tous ces services-là, et ben j'utilise ça. Et l'intérêt, c'est quoi? C'est que dans notre navigateur, on peut mettre une petite extension. Et ça remplit automatiquement tous les services qu'on utilise en rentrant une seule fois le mot de passe principal. Si vous avez un téléphone avec la pomme, vous avez un Face ID, ben avec votre Face ID, il se déclenche automatiquement et c'est le mot de passe. Si vous avez un avec le pouce, et ben vous débloquez comme ça. Ça rend des services énormes et je pourrais plus m'en passer. Franchement,
moi c'est pareil. Hein. D'ailleurs, on a le même, Jeff. Je peux vous dire que c'est la révolution avec le téléphone à la pomme parce que moi j'ai un mot de passe maître qui est compliqué. Hein. C'est un peu l'idée qui est quand même un peu
long. Phrase passe, ouais.
Quand il faut se taper le rentrer sur un téléphone à la main, je peux vous dire que c'est un peu long. Alors que là, avec la reconnaissance faciale du téléphone, c'est quand même sacrément chouette. Et pour parler un petit peu de celui-ci, on peut le dire, tant pis, le nom s'appelle Dashlane.
Ouais, on utilise
Il propose en plus un service de proxy. Oui. Donc, quand vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez lancer un proxy. Donc, n'allez pas acheter des proxys.
Un proxy ou un VPN? Un VPN, tu veux dire, non?
Un VPN, pardon. Excuse-moi, n'importe quoi. Un VPN, tout à fait un VPN. N'allez pas vous abonner à des VPN autres ou en prendre des gratuits tout pourris. Vous payez l'abonnement, vous avez un VPN compris que vous pouvez lancer quand vous voulez et ça vous sauve de bien des situations. Ouais, c'est super pratique. Et j'irai même encore plus loin, puisque j'ai eu quelques déboires de piratage ces derniers temps. J'ai activé la double authentification sur la plupart des sites qui le proposent, et je vous invite un petit peu à le faire si vous pouvez, parce que donc le principe de double authentification, c'est assez facile. C'est quand vous identifiez sur un site qui est pas habituel, hein, en général, parce que vous pouvez sur les habituels, vous n'êtes pas obligé. Enfin, sur les machines où vous connectez habituellement, pardon, vous pouvez le faire une seule fois et après dire c'est bon, c'est safe. Mais ça vous envoie un code, en fait, dans une application. En général, vous faites comme vous voulez, une application spéciale qui vous envoie un code que vous rentrez en plus pour être sûr que c'est bien vous et non pas une usurpation d'identité avec des codes qui sont vendus, revendus. On le sait bien, parfois, ça arrive quand on se fait hacker. Donc, il gère ça et c'est pas mal. Moi, j'ai la chance d'être équipé un peu en pomme. Donc, sur ma montre, j'ai même ce code qui apparaît. Donc, c'est très rapide. Je regarde ma montre et je m'authentifie en double authentification à double facteur, comme on appelle, sur les sites. Et c'est, voilà, je suis très sécurisé. Je l'ai fait parce que j'ai eu des gros soucis de piratage et je vous assure que j'espère que ça n'arrivera plus. Voilà.
Ok. Non, en tout cas, bon, on a proposé Dashlane, mais il existe d'autres. Hein. Je pense à LastPass, je pense à OnePass.
OnePass.
Voilà, il en existe d'autres. Je crois que Seb, t'en as un autre, toi. Vas-y. Donc.
Moi, j'utilise Bitwarden. Alors, Bitwarden, il est gratuit, mais il est en open source. Donc, ça va. J'en ai lu beaucoup de bien avant de m'y mettre. Et comme d'habitude, alors vous avez le gestionnaire de mot de passe, vous n'avez que le mot de passe principal à retenir. Alors, une petite astuce, si vous n'avez pas envie de vous encombrer avec un mot de passe qui va contenir, je ne sais pas moi, vous n'avez pas envie d'avoir 693 000 $98 ABCD, un truc tout simple que vous pouvez prendre, c'est faites-vous une phrase avec des mots un peu bizarres. Hein, je ne sais pas, mais matata, ouais, un grand baignoire sur la tête. C'est très compliqué. Excusez-moi, mon ordinateur me parle en même temps. C'est très compliqué à craquer comme mot de passe. Et vous avez des majuscules dedans, vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un point, donc vous mettez un point d'interrogation, par exemple. Ça vous fait un mot de passe fort, comme ils aiment à le dire. Dans un gestionnaire de mot de passe, en plus, vous pouvez mettre des documents. C'est-à-dire que, par exemple, vous pouvez mettre votre carte d'identité scannée, vous pouvez mettre votre permis scanné, et si par hasard vous partez à l'étranger, c'est quand même pas mal d'avoir ce genre de papier accessible.
Tout à fait.
D'un simple clic. Alors, comme a dit Guillaume, moi aussi j'ai la chance d'avoir un truc à la pomme, mais sinon, il y a sur d'autres smartphones, vous pouvez le faire avec le pouce. Franchement.
Avec le pouce, ça marcherait bien. Hein. Moi, je ne suis pas la pomme.
Vous arrivez,
ça marcherait bien. Tac,
il est ouvert, vous avez accès à tous vos mots de passe, et ça permet d'un truc en hygiène numérique qui est merveilleux, c'est que si vous ne faites pas ça, vous allez faire quoi? Vous allez utiliser le même mot de passe un peu partout. Et si vous vous dites, mais non, mais moi c'est bon, c'est, je suis tranquille, vous faites un petit truc, vous allez sur le site qui s'appelle ihavebeenpwned.com, et sinon vous utilisez le service de Firefox Monitor. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller fouiller dans les bases de données que se revendent les hackers sur le marché noir si votre mail y est. Moi, par exemple, mon mail y est. Je le sais, je me suis fait... Et c'était très drôle. C'était, par exemple, je ne sais plus si ce n'est pas Socrative ou un autre truc comme ça qui avait été craqué. Et donc, mes identifiants étaient passés dans le domaine...
Redonne le site, Liam. Je ne connaissais pas vraiment.
Mais Pwned, c'est P-W-N-E-D.
Comment tu écris ça?
P-W-N-E-D.
Je te le mets dans le
verbe dans le cabaret.
Voilà, on vous le mettra dans le note de l'émission. PWND.
Tu vas rentrer ton adresse mail et il va te dire, ah ben oui, elle est contenue dans tel truc parce qu'il y a une faille de sécurité dans tel logiciel en telle année.
Super.
Et alors, pour info, en fait...
Dashlane le propose.
Dashlane le fait, en fait. Parce qu'en fait, si vous voulez, tous les sites utilisent la même base de données de ces infos-là. En fait, c'est des bases de données. Même à IHavebeenPwned, il ne fait pas mieux que les autres. C'est juste qu'il consulte des bases de données qui exposent justement les dernières attaques. Mais c'est bien de se tenir au courant parce que, par exemple, le site... Je ne fais vraiment pas la pub de Dashlane, hein, je n'ai pas l'habitude.
Ils font à peu près tous la même chose.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une surveillance du dark web. Alors moi, perso, j'y vais jamais, mais voilà. A priori, ça permet de surveiller si dans le dark web, si je t'assure, si sur le dark web, les mots de passe n'ont pas été justement revendus. Et surtout, plus que de vous dire si vraiment votre email y est, il peut le savoir, mais surtout qu'il vous dit, par exemple, il y a eu encore un leak récemment sur Facebook, donc on vous propose de changer pour vous de mot de passe. Il vous le dit, en fait. C'est plus vous tenir informé des derniers hacks, ce qui fait que si vous suivez un peu, vous avez un mot, on vous dit, il y a eu récemment un hack sur tel site, vous avez un identifiant sur ce site, changez-le. Donc, c'est plutôt pas mal cette veille automatique de sécurité qui permet de...
On parle là simplement d'hygiène numérique et il faut simplement se dire, il ne faut pas se dire non, mais ça va, je vais que sur des sites sûrs. Vous pouvez très bien aller sur des sites complètement sûrs. Moi, par exemple, j'ai récemment un souci apparemment avec Canva qui a dû avoir un petit souci de sécurité.
Oui, a priori.
Fut une époque, c'était Adobe. Et je peux vous dire qu'Adobe, ça pèse en termes d'utilisation d'argent. Donc, à partir du moment où on utilise des services du net, voilà. Et comme beaucoup de monde va mettre 1, 2, 3, 4, 5 sur tout comme mot de passe sur la plupart des services, une fois qu'ils ont les mots de passe sur un service, ils ne sont pas bêtes, ils vont les essayer sur tous les autres où vous avez le malheur d'être inscrit.
J'ai une anecdote avec mon papa qui s'est fait hacker sur un service. Il a mis le même partout et il s'est fait hacker plusieurs services, justement.
Ouais, forcément.
Voilà. Donc voilà, c'est plus qu'un truc et astuce qu'on a fait, c'est carrément un gros truc pédagogique. Voilà. Non, c'est bien. Alors pourquoi tu me parlais de Bitwarden qui est gratuit, pourquoi je paye encore moi alors? Il synchronise avec tous les
moi je laisse
les appareils.
Je l'ai en add-on sur Firefox, je l'ai sur le téléphone. Après je pense que l'implémentation sur les téléphones elle sera toujours moins poussée que Dashlane que j'ai utilisé pendant un moment, tout simplement. Mais sinon c'est un bon il est bon quoi, il est tranquille, moi j'y trouve mon compte, c'est tout.
Ouais,
j'ai envie de te dire que après c'est toujours le problème, je sais qu'il y a une version premium qui existe avec des services que je n'utilise pas, mais rien que le fait là par exemple que si vous avez un VPN avec Dashlane, j'ai envie de te dire que ça vaut le coup quoi, parce que bon moi j'en ai un de VPN à part, mais parce que je n'ai pas d'offre.
Dashlane, ça coûte 40€ l'année, c'est ça?
L'année, ouais, c'est ça. Ouais,
ouais, ça va, quoi.
Ils sont à peu près tous au même prix. Hein. J'avais tous regardé. Ouais, Voilà, enfin après, c'est pas qu'on pousse au chien mot de passe, mais moi, je trouve que ça change la vie avec tous les services qu'on a, quoi. Voilà.
Alors,
ou personnel, voilà.
Oui, il faut pousser au gestionnaire de mot de passe parce qu'il y a un truc dont on n'a pas parlé, c'est qu'ils peuvent aussi vous générer un mot de passe.
Oui, c'est vrai aussi. Voilà. Ouais.
Par exemple, vous avez votre service bancaire, vous avez vos identifiants, vous allez sur Amazon, je ne sais pas, Amazon, quand même, il y a votre carte de crédit qui est enregistrée dedans. Il te génère un mot de passe que même toi, tu ne connais pas. tu le rentres en mot de passe, mais tu t'en occupes plus ensuite. Voilà, tu es tranquille là-dessus. Et puis quand il te génère un mot de passe, voilà, il est quand même censé être costaud. Donc, ça peut être pratique. Les gars.
Oui, non, allons-y, pardon, je faisais plusieurs choses à la fois. Truc astuce, on continue ou on passe à l'innovation ou qui c'est qui avait mis quelque chose là?
Ah moi, oui, j'avais mis des trucs pour des vidéos si.
Ah, c'était ça, ok. Vidéo.
Oui, alors un petit article que j'ai pêché, mais alors il n'est pas neuf, hein, celui-là il date de 2018, bon, on est loin de 2007. J'ai pris ça sur le blog de Jennifer Leban, qui doit être légèrement connue dans le milieu, voilà. Et c'était un moment où je cherchais des... Bon, j'avais envie de faire des vidéos avec mes élèves, tentative qui ne s'est pas soldée par une réussite, mais ce n'était pas grave. Et là, en fait, ce qu'est l'article, c'est des vidéos, des idées de vidéos pour les enseignants qui ont peur des projets de vidéos. Donc, j'aime bien ce genre d'idées. Donc, en fait, c'est une liste d'idées assez sympa. Moi, celle que j'avais déjà tentée et que j'aime beaucoup, c'est le time-lapse, par exemple, hein, où tu, en art, c'est super, ça rend très, très bien. Tu installes ton truc. Bon, on en avait parlé, Jeff, qui avait une appli sur iPad qui était super pour ça. Ça fonctionne très bien. Sinon, elle vous dit, proposez-leur un défi, une histoire en 4 plans ou alors une présentation en 3 minutes. 3 minutes, c'est chaud à faire, mine de rien. Une visite virtuelle, réaliser un GIF, raconter un diapo et en faire une vidéo. Voilà. Et dans la même idée, mettre la contrainte pour le diaporama de faire passer les un peu à la façon de... Ah mince, de comment est-ce qu'ils appellent cet exercice de style où tu as 10 secondes par diapositive. Je ne me rappelle plus, tant pis.
Pechakucha.
Ah, oh, merci.
C'est un nom, oui, voilà.
Ouais, ouais. Pechakucha. Et par exemple, de faire ça pour faire la vidéo. Donc voilà, si à un moment vous séchez, ça peut être sympa. Ça ne vous changera pas la vie. Ça
c'est
vous
tout en anglais, par contre. Hein.
Oui, mais écoute, sincèrement, tu sais quoi, j'ai honteusement passé ça dans Google Trad. Et bon, il y a des moments où tu sens que la traduction est très mauvaise. Puis il y a des moments où tu dis ça va, quoi. Et puis même en VO, franchement.
Hein, ça okay, va. Il ne dit rien, Guillaume, donc ça va.
Mais je vais vous dire la vérité, j'écoutais pas, j'étais en train de lire un truc. Je
pardonne. Ah, ça va, tout va bien, mais tout va bien.
Non, mais ça va. Donc, voilà, des tas de petites astuces. Bon, je rappelle, bon, moi j'aime bien l'iPad pour filmer, pour ça, parce que c'est très pratique et que j'ai que ça en classe. Ça m'empêche d'avoir. Ça m'oblige à l'utiliser et sincèrement, il suffit pour ça. Franchement, c'est très pratique. Et toutes les idées qu'elle présente, sincèrement, avec un iPad, ça se fait assez simplement. Voilà pour ces trucs et astuces en vidéo.
Allez, cool. Innovation, expérimentation.
Écoute, allons-y. Très bien. Et je vais commencer.
J'avais mis quelque chose. Tu veux que je commence? Ouais, tu commences. Allez, vas-y.
Je vais commencer. Alors, c'est pas tout à fait innovation, expérimentation. C'est plutôt. D'ailleurs, on devrait la rappeler un peu cette partie. Ça serait plutôt également
ouais,
réflexion.
C'est vrai,
c'est un article de Bruno. Bruno de Vauchel. Donc Bruno de Vauchel, c'est un universitaire qui est spécialisé dans la réflexion sur les nouvelles technologies de l'enseignement. Bon, il en poste pour l'instant à l'université Catalogue de Lyon, peu importe. Et il écrit souvent dans le Café Pédagogique justement sur ces mêmes questions. Et il a rédigé un papier qui a maintenant quelques temps de mémoire, voilà, 30 décembre. Fin d'année, 30 décembre, il devait s'ennuyer. Bruno, il s'est dit, tiens, je vais faire un petit papier sur son sujet de réflexion. Et il travaille, en fait, sur ce papier parle de la, voilà, de la diabolisation des écrans. Moi, c'est quelque chose qui m'a parlé beaucoup pour plein de raisons, parce que d'abord, je suis le premier à constater les méfaits de ces écrans, hein. Mais en même temps, étant ce que je suis dans ma fonction, tout le temps au front pour les promouvoir dans les pratiques enseignantes. Mais toujours un peu ce double discours de dire à la fois c'est quand même super en classe et en même temps de devoir défendre ses choix dans une société qui de plus en plus les diabolise. Et en fait, j'arrivais pas à... Il y avait quelque chose qui me dérangeait en fait dans ce discours-là, aussi bien avec les parents d'élèves qui parfois pouvaient dire « oui, mais ils font assez d'écran à la maison et compagnie voilà. ». Et en fait, il a mis les mots sur ce que j'arrivais pas à exprimer, c'est-à-dire que l'écran n'est pas le problème. Alors, vous allez me dire, c'est évident ce que je vais dire, mais je trouve qu'il l'écrit très bien, elle sait ce qu'il y a derrière. Et le titre de son article, c'est donc « Derrière les écrans, la parentalité », et derrière la parentalité, un projet de société. C'est-à-dire que la prochaine fois qu'un parent, enfin, je pourrais pas lui le dire, mais me dit « vous faites, ils font assez d'écrans à la maison », je leur dirais tout simplement ben, « en fait, ils devraient peut-être faire plus d'écrans à l'école et moins à la maison, donc c'est à vous de gérer ça, quoi. » Et en gros, si vous voulez, tout l'article… tourne autour de ça. Et la phrase d'introduction qui est la suivante et qui dit « Ma colère est grande, pourquoi ne parvient-on pas à dépasser la question des écrans ?» Elle a vraiment tout de suite attiré mon attention puisque, oui, le problème, ce n'est pas l'outil, en fait. C'est vraiment la gestion qui en est faite, sauf que là, on est sur un outil qui est à la fois, je parle de notre métier, là, à la fois à l'école et à la fois dans la sphère publique et dans la sphère privée, en fait. On n'a pas ce problème-là avec les cahiers parce qu'on sait bien que les gamins, ils se battent pas pour lire les cahiers à la maison. Donc, clairement, pardon?
Quoi?
Tu oses? Je ose, voilà. Donc, en fait, je vais pas vous refaire l'article parce que vous irez le lire, mais ce qui m'a vraiment intéressé, c'est toute l'avancée technologique qu'il met en avant dans ce discours, dans ce texte, et il parle notamment de ces fameux, vous avez déjà vu là, ce document de Serge Tisseron, qui est un psychologue reconnu, les fameux 3-6-3-6-9 là sur les âges des écrans. Et il dit que c'est très bien, mais que finalement c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est pas bien sûr que ça marque, mais c'est pas juste ça, et il a raison, c'est pas juste de dire ça y est, d'un coup à 3 ans tu peux te taper le nombre d'heures que tu veux. Alors c'est pas ce qui est dit dans le texte non plus, et c'est pas non plus si avant 3 ans tu regardes une fois quelque chose tu vas finir complètement dépravé. Donc il dit que c'est beaucoup plus compliqué, bien sûr que tout le champ de que l'écran n'est qu'un écran, justement, ça, j'aime bien dire ça, et qu'il y a et que ce marronnier, il a tout un paragraphe là-dessus qui m'a vraiment plu, journalistique, hein, où en période des fêtes on dit que la Switch, que la tablette seront les éléments les plus vendus et les plus offerts, et qu'à côté de ça à la fois les, en gros, quand il dit un truc vrai, c'est que finalement tout le monde râle contre les écrans, les parents les premiers, en disant mais c'est les premiers finalement à les acheter aussi, quoi. Hein. Donc il faut aller au-delà de ça. Et à la fin de cet article, il dit vraiment que c'est un projet de société beaucoup plus complexe, hein, qui soutient tout ce développement et sur le devenir, et qui dit que les écrans ne sont qu'un indicateur indirect de ce projet. Et qui préfère parler dans l'éducation d'une éducation impossible, ou tout du moins difficile, de plus en plus difficile, mais qui n'a pas rien à voir, mais qui n'est pas qu'un problème de matériel, bien sûr, et d'écran, mais qui est directement lié à la parentalité. Et en fait, on est bien tous d'accord là-dessus, quand on voit des enfants qui sont livrés face à ces écrans sur des temps d'occupation trop importants, soit livrés sans abandonner, on va dire, hein, parce que c'est le doudou, parce que c'est facile, ou surtout sans explication, en fait, hein, sans explication, sans lecture d'images quand ils sont face à des contenus pour les aider, etc., etc. Donc voilà, je crois que moi c'est quelque chose qui en le lisant, je me dis bien évidemment, mais c'est complètement évident, j'ai l'impression d'avoir rien appris, mais j'étais pas arrivé à tout à fait le mettre en mots comme il l'a fait. Donc allez lire cet article, hein, qui est plus détaillé que ce que j'ai pu dire. Et je crois qu'en fait, il faudrait le faire lire surtout à beaucoup, beaucoup, beaucoup de parents, et notamment les premiers qui parfois nous reprochent de travailler avec des écrans alors qu'on essaye pertinemment de faire ce qu'eux ne feront jamais. Et à la limite, c'est normal puisque nous, c'est notre métier. Donc, tout à fait. Voilà, remettre un peu tout ça en ordre. Voilà.
Si tu veux, je rebondis tout de suite parce que… Vas-y. J'ai eu droit à… Il y a un livre qui traîne en ce moment qui est, je pense, l'idée opposée à ce que tu viens de présenter, c'est-à-dire que il va dans l'article dont tu nous parles, il va aller vers l'idée que ça n'est pas simple, qu'un écran n'est pas simple, etc. Et aux parents qui s'inquiètent, moi j'ai pas un conseil, je fais pas de livre dessus, mais j'ai un conseil tout simple, c'est si vous avez peur de donner un écran à vos enfants, ben restez avec eux quand vous leur faites partager un écran, parce que le problème c'est l'écran nounou. Hein, et moi, les écrans nounou, j'en vois, ça me hérisse le poil. Et justement, il y en a qui surfent sur la vague, hein, qui en profitent. Il y en a un qui s'appelle Michel Desmurger, qui a sorti un livre qui s'appelle, et le titre est magique, parce qu'il renvoie à deux choses différentes, La fabrique du crétin digital. Mmh. Alors, il y avait La fabrique du crétin qui était sortie, qui était un livre qui fleurait bon la France d'il y a longtemps, avec des recettes toutes faites et où toute innovation pédagogique, en fait, ça servait à rien. Tu rajoutes digital derrière et c'est magnifique, parce qu'en plus, ça a obtenu un prix apparemment, cette connerie. Pardon, c'est en gros, c'est horrible. C'est horrible, on va vers la catastrophe, ça va être horrible, ils vont devenir gros, gras, idiots, méchants, bêtes. Voilà, la totale. Alors, je ne dis pas que je prédis l'avenir, mais je pense qu'on se marrera. Il y aura certains trucs qui nous feront marrer plus tard, sauf si on reste dans ce marasme-là. Et j'ai peur, pour tout te dire, qu'on entende plus celui-là avec son bouquin plutôt que de Vauchel avec des idées.
Parce que
c'est toujours plus simple d'écouter une recette. Tu parlais de Tisseron tout à l'heure. Moi aussi, je ne suis pas d'accord avec le 3-6-9. Je trouvais ça trop simpliste. Mais malheureusement, les gens, ils sont plus amateurs de recettes que de réflexions.
C'est exactement ça. Hein. C'est exactement. Moi, je le connaissais aussi, ce bouquin-là. Et pareil, hein, j'ai eu le même ressenti que toi. Tous les trucs qui sont de toute façon trop polarisés, ça a tendance à me gonfler d'une manière, d'un côté ou de l'autre, de toute façon. Mmh. Quoi, hein. Il faut la réflexion associée à ça. Il faut accompagner les élèves. Je veux dire, l'écran nounou, on l'a tous connu. Hein. Moi, quand j'en discutais avec des amis, quand j'étais gamin, hein, je suis né dans les années, début des années 80, j'ai été élevé au mercredi après-midi au Club Dorothée. Enfin, pas tout à fait parce que j'avais la chance d'avoir des parents qui me faisaient faire des activités et compagnie, qui fait qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'enfants qui font pas ça et qui, du coup, restent cloîtrés. Bon, la télé avait ça de différent, qu'on n'avait pas accès à tout le temps, que une fois que les programmes étaient terminés, ils étaient terminés. Et que finalement, il n'y avait qu'un appareil à la maison, et qu'il arrive, il y avait toujours des adultes qui regardaient un peu par-dessus l'épaule. Voilà. Mais je trouve que, voilà, je suis vraiment d'accord avec toi. Ce genre de discours à l'opposé, un peu simple, sur oulala, les écrans, c'est le mal, est en train d'être pris. On va se retrouver encore dans un truc entre deux polarités et on va encore se retrouver au milieu où on va devoir systématiquement justifier ce qu'on fait, et ça me gonfle un peu, alors que c'est ce que dit l'article de Vauchel, hein. Il rappelle quand même que les avancées technologiques qu'on connaît, on n'a jamais connu ça, que c'est absolument exceptionnel et génial. Moi, tous les jours, je suis ravi d'ouvrir mon ordinateur en classe, d'avoir un Google Maps ou n'importe quel logiciel de carte qui apparaît, de pouvoir aller. Ce matin, on se demandait à quoi ressemblait une ville sur laquelle je travaillais, hier, pardon. Voilà, Google Street View, c'est quand même exceptionnel, ce qu'on se rend compte. Enfin, je veux dire, c'est tout ça, on pourrait plus faire sans, quoi. Donc,
non, si je profite, je l'ai pas trop ouvert, je peux rajouter un truc sur le. Il y avait un très bon article que je pensais parler ce soir, tu vois, là-dessus, sur le très bon site The Conversation, qui s'appelle Les adolescents face aux écrans, faut-il repenser le discours de prévention? C'est un article qui est écrit. J'ai perdu le nom. Une psychologue, justement, sur ces histoires d'addiction, qui est très intéressante. Je vous conseille d'aller le voir. Elle met vraiment, en tout cas, en opposition les écrans et l'adolescence, en fait. Donc, je vous conseille d'aller le voir. C'est pour compléter un petit peu cet article de Vauchel. Je les mettrai dans le note de l'émission, en tout cas, cet article.
Très bien, merci.
Bon, on a fait un petit moment là-dessus, non? Qu'est-ce que t'en pensais?
Oui.
Allez. Oui, ça suffit.
J'avais un petit truc, moi, je sais pas si je... Sur l'autonomie, peut-être qu'on en parlera la prochaine fois, je le garde pour la prochaine, non? Je vois l'air qui tourne.
Pas de souci.
Ouais, ça vous va?
Et sinon...
Oui.
Alors,
si tu veux y aller...
Allez, ce qu'on fait en ce moment, les gars. Alors, ce qu'on fait en ce moment... Ouais, on fait tous la même chose, tout à fait. On va parler de l'émission 100, puisqu'elle va arriver dans peu de temps. On n'a pas encore trop arrêté la date, parce qu'on va essayer de tous se retrouver. C'est l'occasion, en tout cas, de lancer un petit formulaire qu'on a essayé de faire, sur voir un petit peu vos habitudes d'écoute, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas, etc., etc. Donc, on va publier sur les notes de l'émission... le lien vers ce formulaire, donc on vous laisse un petit moment pour répondre. On essaiera en tout cas de donner les résultats lors de l'émission 100. Et une petite FAQ, hein, donc si vous avez des questions à nous poser, vous pouvez, allez-y. On essaiera d'y répondre, en tout cas, c'est cette émission-ci. Enfin, on essaiera de répondre à quelques-unes. Je ne sais pas si on sera submergé de questions, peut-être.
Si on est submergé, on fera une 100 bis, hein, écoute.
Voilà. Voilà, donc voilà, c'est ce qu'on fait en ce moment. On est en train de préparer cette émission 100. C'est compliqué, on avait plein d'idées, mais tout n'est pas faisable. Donc on va essayer de faire ça, un truc bien sympathique en tout cas, chacun de notre côté. On prépare quelques surprises, hein, on essaie de teaser, donc essayer de préparer quelques surprises sur cette émission 100. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur cette émission qui arrive.
Oui, spoiler, si vous venez bien, l'émission 100, peut-être que vous aurez la chance de voir Jeff habillé en lapin rose.
Ah ouais. D'accord, faut que je... peut-être qu'on se déguisera, mais peut-être pas en lapin rose. Mais...
Ah si, trop tard, je l'ai annoncé, là, t'as pas le choix pour le faire.
D'accord, ok, bon, je te trouverai un petit gage aussi, t'inquiète.
Ah,
ah oui, d'accord, ça va être sympa. Ah oui, venez en vidéo, vous allez voir, ça va être rigolo, apparemment.
T'inquiète, on a déjà trouvé le tien, le 7, tu le sais pas encore, mais tu vas être trop beau.
Donc voilà, voilà, je sais, vous faites pas.
Moi, je vous amène deux jeunes pleins d'illusions pour l'émission 100. Vous allez voir,
ça va donner. Non, à une époque, quand on faisait sur Google Hangout, il y avait la possibilité de rajouter des incrustations. J'aimais bien jouer avec les chapeaux et les trucs. C'était bien, ça. Vous rappelez?
Oui. Il y a des logiciels comme ça. J'en avais un sur mon ancien ordinateur qui te remplaçait par une poupée virtuelle très très sympathique.
Ah ouais, intéressant. Ah là là, tiens.
Voilà.
Bon, bah voilà.
Eh ben c'est bien. En tout cas, n'hésitez pas, dès la publication de l'émission, vous aurez ce petit lien on essaiera. Voilà.
On fera passer sur Twitter aussi, histoire d'être.
Sur Twitter, sur tous les réseaux, voilà. vous aurez ce petit questionnaire. Voilà. On continue, les gars ?
Allez.
On parle d'autre chose. Je crois qu'il n'y a que moi qui ai mis une petite chose. C'est un truc hyper rapide.
J'ai mis quelque chose moi aussi, je t'assure.
Ah, mais c'est caché là sur la deuxième page aussi. C'est un petit cachotier. Bon, je commence. C'est moi le chef, c'est moi qui commence. Allez, juste un petit truc, un petit article que j'ai trouvé sympathique sur EducaVox, le très bon site d'EducaVox, que j'aime beaucoup, sur les médias des acteurs de l'école. On reste un peu dans l'école, oui et non. Sur un petit article sur les Français qui se désintéressent de l'actualité, il a été fait un petit sondage que je trouve un petit peu assez surprenant, en tout cas, que les Français de moins en moins s'intéressent à l'actualité. Un peu moins de 6 Français sur 10 s'intéressent à l'actualité maintenant. Voilà, jamais autant de personnes interrogées n'avaient assumé le fait de s'intéresser assez faiblement ou très faiblement à l'actualité. Donc assez faiblement, 28% des sondés, très faiblement 13%. Les jeunes, 50%, les femmes, 53%, les moins diplômés, 54%, les personnes engagées politiquement, 48%, mais aussi les ouvriers, 53%, ou les commerçants et artisans, 53%, s'isolent le plus de l'information. Voilà, rien de plus, elle apporte rien de plus cet article, cette étude. Voilà, est-ce que c'est une crise de confiance, une crise de l'information? On se pose des questions, en tout cas aussi de crise de la représentativité sur le de moins en moins on s'intéresse à l'information. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rebondir là-dessus, mais je trouvais ce petit sondage intéressant.
J'aurais aimé savoir comment mesurer ça, mais bon.
Comment ils mesurent? Dis-moi, j'ai pas compris.
Comment tu mesures ça?
C'est un sondage.
Juste un sondage?
Ouais, c'est un sondage Sofres, ouais. C'est un sondage Sofres, ouais, tout à fait.
Après, moi, je sais pas toi, mais j'ai l'impression d'être tout le temps sur l'actualité du moment. Ça ne demande pas grand-chose. Hein. Mais bon.
Ouais, sur l'actu quoi, mais des fois, on est sur l'actu très, très focus sur nos sondages. L'actualité générale, moi, je pense qu'elle est surtout là-dessus, basée là-dessus. C'est vrai que j'en consomme de moins en moins de la plus générale. Moi, je suis un peu dans ce cas-là, si vous voulez savoir.
Ouais. Non, parce qu'après, tu as la lecture de la presse qui est en chute libre depuis des années, qui va un peu avec ça. Hein, il ne faut pas se leurrer. Donc oui, bien sûr. Mais est-ce que les gens n'ont
non,
pas...
c'est pas forcément sur la presse. Hein, là, c'est l'actualité en général, hein, aussi bien numérique. Voilà.
Ouais. Bon, écoute, là, j'ai pas de rien de plus pour moi.
Ok, voilà, donc c'était juste ça. Voilà.
Bon, je passe à un truc totalement frivole. Alors.
Vas-y, Seb.
Voilà, voilà. Alors, la dernière émission, la dernière émission, je vous avais dit comment j'avais refait vivre ma Wii en mettant des jeux émulés dessus. On va continuer dans la série. J'ai changé de téléphone, mais j'ai gardé l'ancien. L'ancien, c'est un Android. Des sous-Android, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a beaucoup d'émulateurs. Beaucoup, beaucoup d'émulateurs. Comme le téléphone n'est pas trop vieux, il fait tourner des jeux jusqu'à la PS1 sans problème. Le seul problème sur les téléphones tactiles de nos jours, c'est que pour bien jouer, il faut des boutons. Des boutons physiques, j'entends. Et que pour ça, Papa Noël est passé et m'a laissé une jolie bébête qui s'est de la marque Ipega. Mais bon, vous en avez pléthore, hein, vous tapez. C'est cette série de manettes Bluetooth en sous forme de pinces extensibles dans laquelle vous allez insérer votre téléphone et qui, du coup, une fois resserré, si vous avez un téléphone un peu grand, ça ressemble à une Switch, en fait. Moi, j'ai l'impression de me balader avec lorsque je l'ai enclenché. Ça fonctionne en Bluetooth, ça a une bonne batterie, c'est très sympa. Franchement, si vous savez pas quoi faire de votre ancien téléphone Android, ben, c'est super. Par contre, si vous êtes sur Apple, c'est plus chiant. Vraiment, il n'y a pas grand-chose. C'est plus compliqué, etc. Alors que là, Android, c'est la porte ouverte. Pour ça, c'est une merveille. Donc voilà. Si vous aimez les jeux, si vous aimez les émulateurs, allez-y.
Très bien.
Merci.
Voilà. C'est vrai que t'es dans l'émulation en ce moment, c'est bien.
Ouais. Non, mais ce que je te dise, le truc super cool, c'est que ça, c'est devenu la console de ma fille quasiment maintenant. Donc voilà. Et elle joue à des jeux. Alors, quand elle en parle avec ses copains et copines, c'est un peu bizarre parce que elle joue à des jeux auxquels je jouais moi sur la Super NES. Donc forcément, ça leur parle pas énormément parfois. Mais c'est bien, elle fait de l'histoire du jeu vidéo pour l'instant.
Bien.
Voilà.
Eh bien, écoutez, moi, pour terminer rapidement ce que je lis en ce moment, alors je suis retombé, parce que vous comprenez, il faut bien un peu élever le niveau culturel de cette émission, monsieur dame. Je lis donc Bret Easton Ellis, qui est quand même un écrivain américain ultra connu, puisqu'on lui doit sa plus belle œuvre, la plus connue, qui est American Psycho, qui a été repris dans un film et qui racontait la vie un peu... comment dire, torturé d'un richissime New-Yorkais trader qui s'amusait à tuer des gens la nuit. Bon, il est toujours un peu sur ces thématiques-là, sur les excès, sur les gens qui ont beaucoup de moyens dans certains de ses livres. Et ben là, j'ai voulu lire, parce que je le connaissais pas, son tout premier roman qui date de 85 et qui s'appelle donc Less Than Zero et qui traite en fait de l'histoire d'un jeune homme un peu dans les mêmes idées que American Psycho, sauf que American Psycho c'est à New York, qui revient dans sa Californie natale pour des fêtes de Noël et qui passe son temps entre jeunes très riches à faire la fête et à prendre de la drogue et à avoir des relations d'une nuit et voilà, c'est un peu tout le traitement justement de ces personnes, de cette couche de la population qui a tout, qui finalement teste toutes les limites de tout et qui devient complètement aliénée par ça, qui se rend compte de la futilité de ces relations. C'est assez intéressant. Et puis la manière dont c'est écrit est très, très... Bret Easton Ellis, si vous avez l'habitude, hein, pas de chapitre ou très peu, à la première personne, presque comme un peu un flux de pensée. La narration n'est pas volontairement assez précise et assez courte et peu développée. Et voilà, c'est plutôt, si vous aimez la lecture, n'hésitez pas, on passe un bon moment. Voilà.
Eh bien, très bien.
Tu as oublié les lunettes et la pipe, là, du coup, pour faire chronique littéraire comme il faut.
Ouais, c'était un petit peu rapide quand même, mais c'était, voilà, en tout cas, c'était plus une idée de lecture, n'hésitez pas, voilà, lisez. Alors, voilà, pour finir là-dessus, moi, je lis, en fait, sur tablette, comme ça, moi, je suis à la fois dans la lecture, mais en numérique. Alors, sur liseuse.
Ah, sur liseuse, ça n'a rien à voir, pour ceux qui ne connaissent pas une liseuse, je vous conseille.
Ouais, on pourrait débattre de ça aussi. Si, c'est vrai que c'est beaucoup plus agréable à lire. Après, en termes de fonction de dictionnaire et compagnie, celle que j'ai est bien, mais quand même moins performante qu'une tablette, je le reconnais. Mais
ah oui, peut-être, mais pour la simple lecture.
Pour la lecture et pour le poids, c'est évident que la liseuse est quand même de loin, bien plus agréable. Voilà.
Eh bien, super, bonne émission en tout cas, les gars. Hein?
Eh bien, bonne soirée, bonne nuit, bonjour chez vous.
Donc, un petit rappel, n'hésitez pas nous faire des retours en tout cas sur eTeachers.fr, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur iTunes, pourquoi pas, le petit formulaire qu'on va vous envoyer, allez-y, partagez, répondez, voilà, posez des questions sur tous les réseaux, Facebook, Twitter, que je disais. Vous nous trouvez aussi sur Spotify, sur Deezer, vous nous trouvez vraiment partout. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous faire des retours positifs ou même négatifs, hein, on en a besoin aussi, hein, on est un peu trop dans notre zone de confort sinon. Hein.
Oui, bien sûr. Bien entendu.
Voilà les gars, en tout cas c'est si on veut vous donner des commentaires négatifs un petit peu sur vous directement, comment on fait?
Eh bien
on vous envoie les tomates.
Vous pouvez m'envoyer une lettre avec écrit de réception. Allez, Twitter, comme d'habitude, Wido_teach.
Seb.
Alors Seb, c'est un pigeon voyageur au Colombier de Nice, n'hésitez pas, ou sinon, si vraiment vous avez la flemme, c'est sur Twitter avec @stuteur.
Merci.
Et le chef Seb.
Le grand chef, c'est @jeff8342, voilà.
Depuis quand c'est le grand chef?
Bah, j'ai toujours été comme ça, tout le monde le sait que je suis le chef.
Merci Seb, c'est bien.
oh là là. Ça faisait bien longtemps qu'on ne l'avait plus faite, celle-là.
Elle te manquait.
Alors attention, parce que ça date d'une certaine époque. Je dis ça, je dis rien.
Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on a pris un coup de vieux. C'est vrai.
Moi, je pense que les millennials ne connaissent effectivement pas ça. Mais bon, c'est pas grave.
Allez, messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et rendez-vous à la 100.
Ouh. Ouais. Et
bonne année.